Oui, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin?
Oui.
On a un petit peu moins de canicule. Je suis content. Hier, j'étais au bord de la piscine et tout à coup, j'ai vu un moustique venir se poser sur mon bras. Et au moment de boire mon sang, il a soufflé parce que c'était trop chaud. Il ne voulait pas se brûler la trompe. Vous dire à quel point il fait chaud ici. On est tous bronzés. C'est bien. Gloire à Dieu. Eh bien, vous qui nous écoutez, qui nous rejoignez sur Internet, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Jésus, nous te remercions pour cette belle journée, pour ce culte d'adoration que nous sommes venus te rendre. Et nous te remercions, mon Dieu, pour tous les fidèles qui viennent nous écouter. Nous les bénissons en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Comme je l'ai dit vendredi passé, j'ai à cœur de faire une étude un peu différente sur l'Apocalypse. Et puis, j'ai dit que je vous donnerai la suite vendredi prochain, mais je n'ai pas pu m'en sortir, donc je vous la donne déjà aujourd'hui, parce que je suis pressé de vous dire ces choses. C'est tellement beau, ça m'a fait tellement de bien personnellement, et... je suis sûr que ça va vous bénir aussi et voilà, donc vendredi prochain aussi il faudra venir écouter la suite. Alors oui, je voudrais dire aussi à nos partenaires qui écoutent sur Révélation Bible, on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de gens qui viennent le vendredi soir que pour écouter la prédication que la prédication du dimanche matin. C'est bizarre. Donc on aimerait que vous nous disiez pourquoi vous venez pas le vendredi soir. Est-ce que vous trouvez que mes prédications sont moins bonnes ou qu'est-ce qui vous dérange? Moi j'ai pensé que c'était simplement parce que le vendredi soir, voilà, on a fini le travail et puis le samedi on va faire les courses, donc on n'a pas le temps. Bon, mais dites-moi, j'aimerais bien savoir comment on peut faire, parce que bon, moi je trouve pas que mes prédications du vendredi sont moins bonnes que celles du dimanche. Par contre le dimanche ça marche du tonnerre, on a de plus en plus de personnes qui viennent qui s'inscrivent à la newsletter et c'est très bien. On a dû aussi changer des choses avec PayPal parce que il y avait trop de dons, donc ils ont dit oh là là, il faudrait, donc nous avons dû changer ça pour prendre un statut différent, plus élevé, afin d'être dans la légalité. Alors je voudrais au passage remercier tous ceux qui font des dons sur PayPal. Alors, c'est pas parce que je dis qu'il y en a beaucoup qu'il faut arrêter, hein, au contraire, faut donner encore davantage, parce que comme vous le savez, eh bien on n'arrête pas d'envoyer à gauche, à droite pour des gens voilà, qui sont dans le besoin. Que Dieu soit béni. Voilà, ça c'était juste pour les petites annonces. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1, et on en est toujours au verset 1. Il y a tellement de choses à dire sur ce verset 1 que je vais commencer là ce matin encore. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Amen. Seigneur, notre Dieu, je te prie de vraiment encourager mes frères et sœurs au travers de ce message, de leur donner de pouvoir bien mettre chaque chose à sa place et de ne pas se laisser bouffer par des détails. Merci Jésus. Amen. Jésus est venu chercher et sauver les siens. Ça, c'est clair, je vous l'ai enseigné, ça ne vient pas de moi, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et le livre de l'Apocalypse est, en plus de ce qu'on y voit quand on le lit au premier coup d'œil, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ en nous. Parce qu'il vit en nous, il ne faut pas oublier ça. Il vit en nous, dans les siens, il vit pas. Bien sûr qu'il est partout, il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Donc il est aussi bien dans les païens, les incrédules, les mécréants, dans tout ce que vous voulez. Mais il est en particulier en communion avec nous. Et le livre de l'Apocalypse nous est adressé à nous, ses serviteurs. C'est une révélation de Jésus-Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'était notre sœur Camélia, c'était son verset préféré. Le verset préféré de Violette, sa fille, c'était « Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et le verset de Camélia, c'était « Christ en moi, l'espérance de la gloire. » Elle disait ça comme ça. Et si on dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, c'est un peu comme si on disait Christ est en nous et il attend. Ou Christ est en nous et nous attendons. Il y a une espérance, nous attendons quelque chose. Il attend encore plus que nous, en fait. Qu'est-ce qu'il attend ? Cette rencontre, la rencontre que nous allons avoir face à face. Il est saint et nous, nous le sommes en devenir, c'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a purifiés par son sang. À ses yeux, nous sommes purs. Bon, moi, à mes propres yeux, je sais bien qu'il y a encore du boulot, hein. Mais à ses propres yeux, je suis pur parce qu'il me voit au travers du voile de son sang. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes des saints. Avec auréole et tout. Nous sommes des saints. Et notre rencontre finale avec lui, c'est ce que nous espérons. C'est ce qui doit arriver bientôt. Là, on a lu tout à l'heure, là, le texte dit, il lui a donné cette révélation à ses serviteurs pour leur montrer ce qui doit arriver bientôt. C'est ça qui doit arriver bientôt, c'est cette rencontre avec lui. Ça le but. Notre rencontre avec le sacré, avec lui, avec notre Dieu. Et ce qui nous invite à cette rencontre, eh bien c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est pas que Jésus-Christ est mort sur la croix, ça on l'a compris. C'est pas qu'il est ressuscité, ça on l'a compris. La bonne nouvelle pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est que nous allons bientôt le rencontrer. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Et le livre de l'Apocalypse, c'est cette révélation-là, c'est que nous allons le rencontrer bientôt face à face. Ça c'est magnifique. Le livre de l'Apocalypse nous invite plus que tous les autres livres de la Sainte Bible à cette rencontre. Je vais développer ça. Ce livre nous invite à voir et à écouter ailleurs, dans une autre dimension. Nous ne sommes pas de ce monde, alors nous sommes bien d'un autre monde. Et c'est les choses de cet autre monde-là que l'évangile, que l'Apocalypse, qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est dans cet autre monde que nous sommes invités à regarder et à entendre. Vous me suivez bien ? Il nous invite à trouver ce que le monde ne donne pas. Nous ne sommes pas de ce monde, il ne faut rien attendre de ce monde. Ceux qui attendent des choses de ce monde sont toujours déçus. On nous fait des promesses, on ne les tient pas, on fait quelque chose, ça ne marche pas. Il ne faut pas attendre les choses de ce monde, il ne faut rien attendre de ce monde. Camilla disait qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Elle avait raison, il n'y a rien de bon dans ce monde, à part moi. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen. Même moi, je suis pas terrible. Donc, il nous invite à trouver ce que le monde ne donne pas, c'est-à-dire ce qui ne déçoit jamais. Voilà ce que le livre de l'Apocalypse nous invite à trouver, ce qui ne déçoit jamais. Tout cela, Dieu veut le montrer à ses serviteurs. En vérité, le livre de l'Apocalypse est la révélation que notre Père a donné à Yeshua le Messie, à Jésus-Christ, afin qu'il la montre à ses serviteurs et qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver. Ce livre nous montre quelque chose, c'est l'union de Dieu avec les siens, tout ce qui va se passer jusqu'au moment de cette union. C'est ça. Parce que ça va arriver bientôt, cette rencontre. Souvenez-vous, Jésus a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Il est en nous. Et depuis qu'il est en nous, nous avons donc l'alpha et l'oméga en nous. Le commencement et la fin en nous. C'est en nous, puisqu'il est en nous, Jésus est en nous. Et entre les deux, c'est-à-dire entre le commencement et la fin, entre l'alpha et l'oméga, il y a tout notre chemin. Mon chemin n'est pas tout à fait le même que le vôtre, bien que le chemin, c'est Jésus. Mais Jésus se montre à vous d'une manière différente qu'il se montre à moi. Mais simplement, ce qu'il veut vous dire, c'est tout ce qui t'arrive, c'est pour notre rencontre. C'est en vue de notre rencontre. Et entre les deux, il y a notre progression, il y a notre purification qui nous conduit à cette rencontre, à ce face-à-face avec notre Dieu créateur et notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Entre notre alpha et notre oméga, c'est-à-dire ici-bas, dans notre condition mortelle, comme j'aime le dire, on est dans une condition mortelle, c'est mortel d'ailleurs. Eh bien, moi tous les jours, mais quand même très souvent, c'est voilà, c'est lourd. Dieu, notre Père Céleste, veut que nous voyions et que nous entendions, c'est-à-dire que ce qu'il désire, c'est que nous comprenions, que les choses soient claires. Il veut que nous comprenions. Que nous comprenions selon la vision de notre esprit en communion avec son esprit. La révélation, elle vient d'en haut. Donc il faut lever les yeux, notre regard. Élever notre regard, pas simplement regarder à ce qui se passe, à ce qui se produit ici-bas, nos machins, nos trucs, et voilà. Il faut regarder plus haut que ça, entendre plus haut que ça. Pas regarder simplement avec notre chair, c'est-à-dire tirer des conclusions logiques, etc. Non. Il faut avoir la compréhension des choses de l'esprit. Il veut que nous voyions au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que nos oreilles entendent. Ou ce que nos sens ressentent. Au-delà de nos souffrances, qui sont bien réelles ici-bas. Ah, je viens de dire à mes frères et sœurs que j'ai reçu le compte-rendu médical de mes derniers examens au bout de un an de rémission totale au sujet du cancer dont j'étais atteint, et les nouvelles sont bonnes, ça fait plaisir. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et merci pour tous ceux qui ont prié. C'est merveilleux. Mais la souffrance, elle était bien réelle. Vraiment bien réelle. Et vous qui êtes dans la maladie aussi, votre souffrance, elle est bien réelle. Mais Jésus veut que vous regardiez au-delà. Je vais vous expliquer. Au-delà de nos limitations bien réelles. Nous sommes bien limités. Des fois, on est limité par nous-mêmes. Des fois, on est limité par les gens. Des fois, on est limité par le temps. Des fois, on est limité par toutes sortes de choses. Mais Jésus veut que nous regardions au-delà. Quand un disciple de Jésus reçoit cette révélation, quand il comprend ça, quand il reçoit cette révélation que le Père, hors de la création, a donnée à Jésus, qui est Dieu dans la création, pour que lui-même la donne, eh bien, à ses serviteurs, par le moyen d'un ange, eh bien, cela nous donne, enfin, en tout cas à moi, une sainte nostalgie, parce que je commence à me souvenir de mon passé éternel et de me souvenir qui est mon Dieu, comment il est. C'est la révélation vraiment de Jésus-Christ. Ce livre, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ, de comment il est, comment il réagit, comment il est, qui il est. C'est une merveille ce livre. Les gens, maintenant le mot Apocalypse dans la tête des gens, ça veut dire catastrophe. Pas pour moi. C'est une révélation. Le mot Apocalypse signifie révélation. Est-ce que vous avez soif de Dieu? C'est ça la grande question. Si vous avez soif de Dieu, alors louez Dieu pour cette soif. C'est lui qui vous a donné cette soif. Et puis alors ne restez pas là, mais étanchez cette soif. Étanchez-la, jour après jour, et moment après moment, en buvant quoi? L'eau de la parole. L'eau de la parole, et en particulier du livre de l'Apocalypse. C'est le seul livre dans la Bible où nous est dit qu'on est maudit si on y rajoute quelque chose ou si on y enlève quelque chose. Parce qu'il est très 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 important. C'est le livre que Jésus, que Dieu le Père a donné à Jésus, que Jésus a donné à un ange pour qu'il le donne à Jean. C'est le livre que Jésus a écrit en quelque sorte. Pour étancher cette soif, mes frères et sœurs, ça ne va pas être facile. Et vous allez trouver des embûches. Vous allez trouver des embûches sur votre chemin du concret, parce que on y est bien. Vous allez trouver des difficultés, vous allez trouver des souffrances, vous allez trouver la maladie, vous allez trouver des trahisons, mais vous allez aussi trouver des joies. Il n'y a quand même pas que des choses désagréables. Alors, mes frères et sœurs, nous allons rencontrer sur notre chemin qui nous mène à la rencontre face à face avec Jésus, nous allons rencontrer de l'opposition parce qu'elle est nécessaire. Ces oppositions sont nécessaires pour notre progression, on ne peut pas progresser s'il n'y a pas de l'opposition. Si vous faites de la musculation, vous allez voir que s'il n'y a pas de l'opposition, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas des poids de plus en plus lourds, eh ben ça ne va jamais progresser, oui ou non. Donc il faut de l'opposition, il faut que ça soit difficile, sinon il n'y a rien. Je vais te prendre un cas extrême. Il nous faut de l'opposition comme il a fallu un Judas à Jésus. Il l'a fallu. C'était nécessaire pour le plan du salut. Tout le monde lui tire dessus à ce pauvre Judas. Mais bon, pauvre Judas, c'était quand même un démon, nous dit la Bible. Mais bon, sans Judas, il n'y aurait pas eu la croix. Sans Judas, il n'y aurait pas eu la résurrection. Ce mal incarné, ce démon qui était Judas, était obligatoire, nécessaire dans le plan du salut. Et Jésus, étant en toute chose, était aussi en Judas pour que cette chose se fasse. Ah bon, mais bien sûr, est-ce que vous croyez que ça a échappé à Jésus? Est-ce que vous croyez que Jésus était un pauvre Jésus ignorant? Mais bien sûr que non, il savait très bien qui allait le livrer, mais il savait aussi très bien pourquoi il allait être livré. Nous, il nous manque le pourquoi, mais on sait le comment. On sait qu'on va être, on va avoir des difficultés, mais on sait pourquoi on va avoir ces difficultés, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas lesquelles. Jésus, lui, savait, ça, le Judas qui est là, pendant 3 ans et demi, il s'est coltiné le mec, c'est quand même terrible, et puis il l'a aimé, il était gentil avec lui. Sans Judas, il n'y aurait pas eu la croix, mes frères et sœurs. Ce mal, ce démon, ce Judas, était obligatoirement nécessaire. Et comme Jésus, nous avons aussi besoin de nos Judas. Nos Judas, ce ne sont pas que des gens qui s'opposent à nous, qui nous trahissent, qui nous font de la peine. C'est pas que ça. Non. Nos Judas sont aussi tous ces maux qui nous attaquent, qui nous abaissent, qui nous humilient. C'est ça nos Judas. Nos Judas sont les maladies qui nous font souffrir. C'est mal. La maladie, c'est mal. Mais c'est un mal nécessaire. Je ne comprends pas tout, mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est nécessaire. Quand Judas a trahi Jésus, je suis sûr que les disciples n'auront pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, ils ont compris. Sur le moment, ils n'ont rien compris. Mais après, ils ont compris. Ah, mais il a livré Jésus parce qu'il fallait qu'il soit livré, parce qu'il fallait qu'il puisse donner sa vie afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Ça ne m'excusait rien du tout au sujet de ce qu'il a fait, qui était bas. Mais c'était utile. Nos Judas sont aussi nos maladies qui nous font souffrir, et parfois même ce sont nos maladies qui nous font mourir. Nos Judas sont tout ce qui nous occasionne des souffrances. Ça a son utilité. On n'a pas à comprendre, mais on a à croire. Est-ce que vous avez cette sorte de foi? Amen. Ça peut être la bêtise. Nos Judas, la bêtise, notre propre bêtise, ou la bêtise des autres, leur maladresse. C'est pas les gens, mais ce sont juste leurs bêtises et leurs maladresses qui nous font souffrir, qui peuvent nous rendre malades. Mais c'est pas eux. Bah, on est tous bêtes un jour ou l'autre, non? On est tous l'idiot de quelqu'un, ça c'est sûr. Nos Judas sont aussi nos souffrances dû à la mort des gens que nous aimons bien. Et cette semaine, j'ai perdu 2 amis. Il y en a une qui s'appelle la Youn, on l'appelait la Youn, je ne sais même pas comment elle s'appelait réellement. C'est une sœur gitane, c'est la sœur de mon frère Raphaël. Elle est décédée suite à un cancer aussi. Elle est décédée et c'est une souffrance, c'est une douleur pour son mari, pour ses enfants. Pour moi, ça m'a touché. C'est une femme que j'aimais beaucoup. C'était une femme très franche. Quand quelque chose se passait qui n'était pas net dans l'église où elle allait vers le pasteur, elle lui passait un de ses savons. Elle avait le même caractère que Raphaël. Bam! Mais elle était juste. C'était quelqu'un de bien. Mais cette mort, c'est un Judas. C'est une souffrance. Eh bien, c'est une souffrance qui est nécessaire. Sinon, Dieu ne laisserait pas les gens mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai perdu aussi une autre chère amie, Christine Pont-le-Loup, qu'on a appelée pendant des années Sephora, qui chantait dans une communauté, qui avait une voix magnifique, et qui est décédée. On est allé la voir juste une semaine avant qu'elle s'en aille, la vue avec son mari, Roger. Cette mort cause aussi une souffrance à son mari, à ses enfants, à toute sa famille, à tous ses amis, et à moi, ça me bouleverse. Elle se battait, et ben, ce Judas-là a gagné, elle en est décédée. C'est un Judas sur ma route, c'est un Judas sur la route de Roger, c'est une souffrance. Mais il y a aussi un mais, heureusement, ces Judas vont mourir un jour. Ouf! Ces peines vont disparaître, ces chagrins vont disparaître. Jésus nous dit, toutes les larmes, j'essuierai toutes les larmes de vos yeux. Ça veut dire, c'est pas simplement qu'il les essuiera, c'est qu'il nous consolera réellement, on ne pensera même plus à tout ça. Parce que toutes ces choses-là n'ont qu'un temps. Dieu, lui, il est éternel. Et s'il nous parle dans l'Apocalypse, c'est pour se faire connaître lui, et pas seulement ce qui va arriver à notre planète. Bien sûr que ça parle de ce qui va arriver à notre planète. J'en suis convaincu, mais il y a une autre lecture, celle que je suis en train de vous faire en ce moment. Ce qui va m'arriver sur cette planète à la limite, mais je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que Jésus va arriver. C'est pas tous ces machins qui vont m'arriver qui sont importants, c'est que Jésus, lui, va arriver. C'est la révélation de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est Jésus. C'est ça que je dois regarder. C'est ça que vous devez regarder. C'est pas tous les restes. Même si c'est affreux, même si ça fait mal, même si c'est des gros Judas que vous avez dans votre vie, c'est pas ça que vous devez regarder. C'est la finalité de la chose. C'est que Jésus revient. C'est ça qui va arriver. J'ai donné cette révélation à mes serviteurs pour qu'ils sachent ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est Jésus. Les dernières paroles de l'Apocalypse, c'est l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il va venir, parce qu'on sait qu'il va arriver. Et c'est ça qui est important, il vient. C'est cela qui me permet de passer par-dessus tous mes Judas, toutes mes souffrances, vous voyez ? Vous savez, ce monde passe, mais Jésus ne passera jamais. Il ne change pas, il est toujours le même. Et il ne va pas passer, il demeure. C'est la entre guillemets, chose, c'est la seule chose qui ne passera pas. Tout va passer, sauf lui. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? L'avenir de cette terre ? On le trouve aussi dans l'Apocalypse. C'est bien. Mais je trouve que c'est plus élevé que de connaître notre Seigneur Jésus-Christ au travers de cette révélation, et ce qui va arriver bientôt aussi avec lui, c'est-à-dire un nouveau ciel, une nouvelle terre, parce que tout ça, ça vient avec lui. Voilà, il vient bientôt, et nous allons bientôt le voir. Il a dit « Je viens bientôt ». Qu'est-ce qui va arriver bientôt ? Lui. Rappelez-vous de tout ça. Il est déjà en nous, mais nous le voyons trop encore avec un regard humain. Il faut qu'on s'exerce à élever notre regard. Quand on voit Dieu agir au travers de nous par des miracles, par des prodiges, après ça, une fois que c'est arrivé, une fois qu'on a vu ça, quand on regarde le monde, eh ben on se dit, bon, c'est la petite histoire. Même si c'est dramatique, c'est la petite histoire. Nous avons un grand Dieu. Ma petite histoire personnelle qui ne va pas dépasser 80, même, est-ce que je vais y arriver ? Qu'est-ce que ça peut faire à côté de la puissance de Dieu qui rend la vue à un aveugle et des choses comme ça ? C'est, Dieu est tout puissant, mes frères et sœurs. Et de temps en temps, il nous fait un signe pour nous le rappeler. Eh bien, quand on voit ça, quand on voit Dieu travailler au travers de nous, eh bien, on ne veut plus voir que Jésus et Jésus seul. Tout le reste, on veut même plus le regarder parce que ça nous souille. On ne désire regarder que Jésus, qui est notre seule source. On ne veut plus regarder à d'autres sources. On ne veut plus regarder à ce qui nous fait de la peine, à ce qui nous... On ne veut plus. Mais c'est là le grand problème des humains qui sont carrément possédés par un esprit religieux. Ils ne voient et ne vivent pas Dieu. Ils sont méchants, ils sont mesquins, ils sont petits. Ça, c'est typiquement religieux. Nous élevons notre cœur loin de cette dimension-là. Si une personne voit et vit Dieu en elle-même, alors elle est capable ensuite de voir Dieu en dehors d'elle-même. C'est-à-dire, une telle personne peut voir même Dieu en Judas. Parce qu'elle s'est dit, ce type qui me fait du mal là, c'est Dieu qui est en train d'agir. Pour mon bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez ? Cette maladie qui m'arrive là, ça me sert à moi. Je peux vous dire que cette histoire par laquelle je suis passé, avec ce cancer, eh bien ça m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, la relativité de tout. Quand on se voit face à la mort comme ça. Si une personne voit et vit Dieu en elle-même, elle est capable de voir et de comprendre que c'est Dieu qui agit en toute chose. Même dans les méchants, même dans les mesquins, même dans les Judas qui sont nos maux de tous les jours, des maladies et ces machins-là. Dieu agissant au travers de tout. Vous pensez que Dieu n'agit pas au travers de tout? Mais il a agi au travers de Pharaon aussi. Et combien d'autres histoires dans la Bible nous montrent que Dieu s'est servi de pourriture pour en arriver à des choses glorieuses, oui ou non? Même d'une ânesse, pauvre ânesse. Dieu est en tout et il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ne le veuille. Rien. Donc, bravo le Judas. C'est un sale moment à passer. N'est-ce pas, Eric? C'est un sale moment à passer. Mais ça a son utilité, c'est nécessaire, on ne comprend pas bien pourquoi. Mais mon frère, ta couronne là-haut, ça sera autre chose que la mienne. Tout dépend du comportement qu'on a au sein de notre souffrance. Dieu agissant au travers de tout, même au travers des choses difficiles, même au travers des choses incompréhensibles, même au travers de nos Judas, je le répète. Et alors, cette personne qui voit comme ça, elle devient bonne pour le service. Elle devient efficace, elle devient utile. Elle peut être utilisée par Dieu. Utile pour elle-même déjà, mais utile pour les autres, utile pour la nature, utile pour tout. Valable, je dirais, c'est-à-dire ayant de la valeur, ayant pris de la valeur. Nous avons une valeur, mais une personne qui s'élève comme ça, elle prend plus de valeur encore. Mais s'élever dans ce sens-là, c'est s'abaisser. C'est dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la révélation vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Quand la révélation vient de nous-mêmes, frère Branham a prêché sur les sept sceaux de l'Apocalypse et sur les sept âges de l'Apocalypse. Et quand Dieu a enfin ouvert les sept sceaux et les sept âges de l'Apocalypse, frère Branham dit, « Eh bien, mes frères et sœurs, je m'étais trompé du début à la fin. Tout ce que j'ai dit, c'était des échafaudages humains. Mais maintenant, je sais ce que Dieu a à dire. » Parce que Dieu lui avait révélé. Vous comprenez la différence? On peut voir par nos propres... Quand je vois, par exemple, des évangélistes qui se servent de... Apocalypse 2, où il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe à votre cœur, il dit, vous les inconvertis, vous qui connaissez pas Jésus, Jésus est à la porte de votre cœur et il frappe, il veut entrer. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est très joli, mais c'est tout faux. Parce que, quand Jésus dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, c'est pas à la porte du cœur des pécheurs, c'est à la porte de l'Église. Et il frappe pas pour pouvoir entrer, il est dehors, mais il frappe pour les faire sortir de là. Pour attirer leur attention, pour leur dire, allez, on se taille. Laissez-les. Vous voyez? Donc, on peut avoir une lecture charnelle, et puis on peut avoir une lecture spirituelle. Déjà, au moins, respecter le contexte. quand vous voyez un texte, regardez ce qui est autour, pour bien, déjà comment mieux comprendre. Alors bien sûr, il y a des conditions. Dieu ne va pas donner cette vue et cette audition à tout le monde. Il montre ce qu'il révèle dans le livre de l'Apocalypse à celui et celle qui a une bonne volonté. Qu'est-ce que c'est que ça, une bonne volonté? La bonne volonté, c'est celle d'écouter le Maître. C'est celle d'écouter les enseignements du Maître. C'est ça, avoir une bonne volonté. Pas une volonté de trouver des versets pour pouvoir taper sur les autres. Non, c'est de trouver des textes pour bénir, pour aider, pour construire. D'écouter quelles choses vont bientôt arriver. C'est ça avoir une bonne volonté. C'est d'écouter, mais c'est quoi qui va bientôt arriver? C'est Jésus qui va bientôt arriver. C'est-à-dire cette révélation, quand elle vient, elle est progressive. Et elle est progressive pour qui? Pour ceux qui vont jusqu'au bout. C'est pourquoi la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Parce que vous pouvez avoir la révélation de l'amour de Dieu pour vous. Moi, je l'ai eu le 1er juin 1968, mais si j'étais resté là comme ça, ben voilà quoi. Ah, Jésus m'a sauvé, alléluia. Jésus m'a sauvé, alléluia. Alors après, j'étais invité à aller au culte. Alors j'allais au culte. Et au culte, il y avait le bon pasteur qui prêchait, il faut se sanctifier, il faut se purifier, il faut pas pécher, etc. Ah, c'est bien, alors on va le faire. Alléluia, alléluia. Le dimanche d'après, c'était rebelote, et rebelote, et rebelote, et tout le temps, et tout le temps. Un jour, je dis, mais c'est quoi, c'est ça la vie chrétienne? Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose, c'est ennuyeux ça. Et j'ai commencé à chercher à entendre ce que Dieu voulait. J'ai compris ce que Dieu voulait pour ma vie. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu veut pour votre vie? Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose pour votre vie? C'est ça qui est important. Sinon, vous êtes là, alléluia. Toujours à votre première révélation, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il vous a tant aimé, qu'il a donné sa vie sur la croix. Paul dit, mais dépassons ces rudiments. C'est le Seigneur lui-même qui crée en nous cette fidélité. Autant que c'est Dieu lui-même qui a créé en Judas son infidélité. On ne peut pas l'en vouloir à ce pauvre Judas. Parce que tout ça, c'est utile à son plan. Et les choses annoncées arrivent. Lesquelles? Ben, celles qu'on attend, puis celles qu'on n'attend pas. Le livre de l'Apocalypse nous apprend à tout accepter. Il nous dit, voilà les choses qui vont arriver. Bon, elles doivent arriver. Jésus dit, c'est normal qu'il y ait des scandales. C'est vrai, c'est normal. Voilà. Ben voilà. Qu'est-ce que vous l'avez contre? Ça ne sert à rien. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Le livre de l'Apocalypse nous apprend à tout accepter parce que, tout simplement, elle nous arrive pour notre bien, à nous qui sommes les siens. C'est ce qui est révélé là. C'est ce qui est révélé dans tout le message de l'Apocalypse et dans tout le message de la Bible. Et comment cette révélation est-elle parvenue jusqu'à nous? Premièrement, on l'a vu, c'est Dieu le Père qui l'a donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est Dieu dans sa création, hein, et il finira par tout remettre à Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que cette création aura fait ce qu'elle devait faire, que l'utilité de cette création n'est plus, n'est plus utile, ça ne sert à plus rien, à la poubelle! C'est pas écrit? Ben bien sûr c'est écrit, mais pas comme ça. C'est écrit qu'il roulera ça comme un vieux manteau, qu'il le jettera et qu'il se trouvera plus de place devant Dieu pour lui. Et il créera un nouveau ciel, une nouvelle terre, et puis ça sera tout sera différent. Alors, il remettra donc tout ça à son Père. Puis Jésus-Christ a donné cette révélation à un ange qui lui-même l'a donné à Jean. Mais puisque la révélation est parfaitement transmise, le Père, le Fils et l'ange sont un. Et Jean l'a écrite afin que elle parvienne à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. L'ange a parlé à Jean parce que Jean était un disciple attentif, parce que Jean était un disciple aimant. C'était un élève qui voulait bien apprendre. Depuis en haut, Et ce n'est qu'en devenant comme Jean, un serviteur, un élève, voulant bien apprendre, en comprenant peut-être lentement, mais en comprenant quand même, en s'accrochant pour comprendre, et en restant des apprentis, pas en se disant un jour, « Ah ben ça y est, j'ai compris, maintenant je me mets derrière le micro, puis j'enseigne. » Non, on n'a jamais tout fini d'apprendre. En restant des apprentis qui restent les regards tournés en haut vers le Seigneur, ce n'est qu'avec cette attitude de cœur que la révélation, l'illumination deviendra vôtre. Souvent, il y a des gens qui viennent vers moi et me disent « j'ai une parole de Dieu pour toi » ou « j'ai une pensée de Dieu pour toi ». Alors j'écoute parce que je suis poli, mais je vais vous dire, en 49 ans de conversion, tout ça, j'ai le temps d'apprendre qu'il vaut mieux répéter simplement le beau nom de Jésus, le chanter, aimer sa venue, que d'avoir des bonnes pensées qui sont distribuées par on ne sait pas trop qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui a de la valeur, c'est le beau nom de Jésus, c'est d'aimer le nom de notre Seigneur. Il n'y a pas de nom plus élevé que le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une parole de Dieu pour toi, ben, si Dieu veut me parler, il n'a qu'à me parler, pourquoi est-ce qu'il va se servir d'un gueulu, il va venir me dire, ainsi dit le Seigneur. Ça c'est pour les charnels. C'est pour ceux qui comprennent rien à la Bible. D'ailleurs, écoutez la plupart de ces prophéties. C'est « ainsi dit le Seigneur ». « Ne regarde ni à gauche ni à droite », c'est dans la Bible. « Mon peuple, approche-toi de moi », c'est dans la Bible. Tout ce qu'il raconte, c'est dans la Bible. C'est pour les bébés. C'est parce qu'ils sont immatures. Dieu est obligé de leur redire ce qu'il a déjà dit. Il n'y a qu'une chose qui demeure, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Alors, chantons-le, disons-le, prononçons-le. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture et je chantais Jésus, 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 Jésus. C'est en remplissant mon cœur avec son nom que j'oublie le mien. Mon petit présent, mon petit avenir, mes souffrances. Je fais ça dans la maladie, je fais ça dans les moments de joie, je fais ça dans les moments de peine. C'est ça, c'est un secret que je vous donne. Des fois, je me laisse avoir. Vous savez ce qui me fait, là où je me fais avoir, c'est par l'insolence et la bêtise. Ça me tue. Ça me déstabilise, l'insolence et la bêtise. Mais je me reprends vite. Parce que je sais que c'est un piège, ça fait depuis que je suis né que le diable me tape toujours avec ça, je commence un petit peu à comprendre. Mais quand même, à chaque fois, sur le moment même, ça me déstabilise. L'insolence et la bêtise. J'ai compris tout en lisant l'Apocalypse, avec toutes ces catastrophes annoncées, c'est à tel point que maintenant les gens pensent que l'Apocalypse ça veut dire catastrophe, et bien c'est en le lisant et en le relisant que j'ai pris conscience que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire mal, qui va peut-être vous faire de la peine, mais il n'est pas impressionné par votre maladie, Dieu. Il n'est pas impressionné par mon cancer, Dieu. J'allais dire il s'en fout, mais presque. Ce qui est important c'est le résultat. Vous voyez, je ne veux pas dire qu'ils s'en fichaient que Jésus soit vendu par Judas, mais si ça l'avait vraiment impressionné, mais il faisait ça, et Judas, il n'avait pas besoin. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Pourquoi il a fallu toute cette histoire de clous dans les mains, des clous dans les pieds, une épine dans le front? Pourquoi il a fallu toute cette horrible histoire? Dieu pouvait faire autrement. Non, il a laissé faire tout ça. Alors, je ne veux pas dire qu'il s'en fout de tout ça, mais il ne se laisse pas impressionner comme nous nous laissons impressionner. Ne vous laissez pas impressionner. Regardez plus haut que votre souffrance, que votre maladie, que votre difficulté actuelle. Regardez plus haut. Il n'est pas impressionné comme nous le sommes par nos difficultés. Pour lui, tout est bien. Ah bon ? Mais oui. Tout est utile. Même les Judas, même les pharaons, tout a son utilité. Et tout passera en jugement à la fin. Voilà. C'est dit un peu crûment, hein, mais c'est quand même ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, on a tendance à vouloir que Dieu fasse arriver ceci, ou que Dieu fasse arriver cela. Alors on prie, on se dit, je vais l'influencer. On ne se le dit pas, mais c'est quand même un petit peu ça. Oh Seigneur, moi combien de fois je dis, Seigneur, toi qui es tout puissant, toi qui... Tu dis un seul mot, je suis guéri. Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça te coûterait de... Vous n'avez jamais prié comme ça? Moi, je prie souvent comme ça. Parce que je me laisse impressionner. Parce que ça me fait mal, parce que ça me fait souffrir. Parce que des moments, je dis, mais c'est pas juste. C'est peut-être pas tellement juste, point de vue humain, mais du point de vue de Dieu, ça a son utilité. Si vous comprenez ça, vous vous reposez dans la foi. Pour lui, tout est bien. Pour lui, tout est utile. Alors, on a tendance à vouloir que Dieu arrange les bidons, et puis alors nous, on a des idées, on voudrait qu'il fasse comme ça, qu'il fasse comme ça, qu'il fasse comme ça. Mais la seule chose importante, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire lui. C'est pour ça qu'on doit aimer son retour, on doit aimer son avènement. On doit nourrir nos pensées avec ça et notre on doit être dans l'expectative continuellement. Sans devenir dingo comme certains aussi, hein, faire attention. Parce que c'est de l'intelligence spirituelle d'aller voir le but. Jésus dit pas, je suis l'alpha, c'est-à-dire je suis le A, je suis le B, le C, le D, le H, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. Non, il dit je suis le A et le Z. Alors c'est bien qu'il y a des tas de trucs entre deux. Mais l'important c'est qu'il y a un commencement, il y a une fin. Amen. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Dieu donne cette révélation à son fils, qu'il a donné à un ange, qu'il a donné à Jean, qu'il écrit, et maintenant nous avons cet écrit. Et cet écrit devient une révélation pour les gens individuellement. Ça ne vient pas à un groupe. Vous êtes là, mais ce n'est pas forcé que vous la receviez. Ça ne veut pas dire que vous ne la comprenez pas, ça veut dire que vous n'en voulez pas. Peut-être que vous n'en voulez pas. Peut-être que vous dites non, ce que Michel dit ce matin, j'en veux pas. Je vous souhaite de penser autrement. Je vous souhaite de penser autrement. Que vous disiez, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce que je veux, c'est arriver à l'alpha, non à l'oméga, c'est-à-dire à la fin. Je veux arriver à la fin, en être trouvé digne. Ce n'est pas autrement. C'est écrit, c'est révélé. Et c'est écrit qui est révélé là, qui est Jésus en vous. C'est Jésus en vous, c'est la même chose. Mais si vous avez un ardent désir de vivre avec Jésus, pour Jésus et par Jésus, alors votre vie va devenir tellement autrement, tellement différente. Ça signifie qu'il ne faut pas que cette révélation soit touchée par des gens qui refusent de mourir à eux-mêmes. Comme par exemple celui qui a voulu toucher l'arche. Mais il faisait quelque chose de bien, il ne voulait pas qu'elle tombe, mais il ne fallait pas toucher. Mais Dieu n'est pas juste. Pourquoi il fait mourir ce pauvre homme? Il a voulu faire que du bien. Il ne fallait pas toucher. À Marie, qui se présente devant Jésus, Jésus dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au Père. Ne me touche pas. Il faut que quelque chose se passe avant. Il faut que je monte au Père. Et quand Jésus s'est retrouvé avec les disciples, il a dit à Thomas, mets tes mains, touche mes plaies, tout. Ça veut dire qu'il s'était passé quelque chose entre le moment où il avait rencontré Marie dans le jardin et puis le moment où il a rencontré ses disciples. Ça veut dire qu'entre les deux, il était monté au Père et que là, on pouvait le toucher. Il faut que vous montiez au Père, sinon vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas toucher à cette révélation. C'est pourquoi les églises ont peur de ce livre. Vous entendez rarement des pasteurs prêcher sur ce livre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils savent pourquoi ils ne peuvent pas toucher. Et Dieu continue à dire, maintenant, touche la révélation, parce que tu vis par l'Esprit, parce que tu es monté au Père. Ou il dit, ne touche pas à cette révélation, si tu es encore partagé, si tu es encore double, si tu n'as pas été libéré de cette dualité qui est en toi, si tu n'es pas un, ne touche pas. Et surtout, si tu n'as pas le désir de te fondre en Jésus, de disparaître, afin qu'il croisse au travers de toi. Ne touche pas, n'y touche pas, tant que cette dualité de ta pensée n'est pas née à l'unité de Dieu. Tant que tu n'as pas cette foi toute simple que tout ce qui arrive c'est permis par Dieu, tant que tu es encore dans une rébellion, et un questionnement d'incrédule, ne touche pas. C'est pour avoir osé toucher à ces choses sacrées que des religions apostates sont nées. Mes frères et sœurs, en 2014, je m'étais lancé à enseigner ces choses, et l'Esprit de Dieu m'a arrêté parce que il était attristé en moi devant l'immaturité de certains dans le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vrais disciples qui souffrent et qui ont le droit, qui doivent entendre, qui doivent savoir. Alors je le dis. Et tant pis si, par dedans, tous ceux qui m'écoutent, il y en a qui ne doivent pas toucher, tant pis. On ne va pas rester sans révélation, simplement sous prétexte qu'il y en a qui ne peuvent pas toucher. Qu'est-ce que vous en pensez? Jésus, il a tout dit devant tout le monde. Il y avait Judas qui était là tout le temps. C'est pourquoi je recommence cet enseignement 3 ans après. Un cycle s'est terminé, un nouveau commence. Alléluia! Et quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Amen. Merci Jésus de nous garder dans ta paix, de nous permettre d'aller toujours de plus en plus loin sur ce chemin entre l'alpha et l'oméga et que nous arrivions au but, de te voir face à face et de te voir ouvrir tes bras en disant « Entre, bon et fidèle serviteur, tous tes péchés sont pardonnés, tu es pur maintenant, viens dans ma communion, assieds-toi à ma table. Seigneur, nous attendons ce jour avec impatience et je te remercie mon Dieu en attendant. Entre cet alpha et cet oméga, toutes les choses qui arrivent et qui sont désagréables. Je te demande, Seigneur, de nous donner la force de passer par-dessus, de passer au-delà. Je te remercie, mon Dieu, pour tous ces hommes, ces femmes qui souffrent et qui sont dignes. Je te remercie pour ceux qui sont au milieu de nous et qui souffrent et qui sont dignes. Je te remercie aussi pour cette petite fille que j'ai vue sur YouTube, là, qui est en Syrie et qui a vu des gens tirer sur son père et qui dit que Dieu leur pardonne. Seigneur, je te prie pour cette petite fille parce qu'elle est vraiment une petite fille qui vient de toi. Je te prie pour tous ces saints qui souffrent, qui sont déplacés par milliers à cause de la folie religieuse, de ceux qui ont osé toucher et qui n'étaient pas dignes. Merci Seigneur Jésus, parce que nous savons que tout cela est organisé par toi pour une fin. Et nous attendons à cette fin. Nous nous attendons à cette fin parce que nous savons qu'elle est bonne. Et nous nous réjouissons. Et nous te demandons, mon Dieu, garde-nous petits, garde-nous humbles, garde-nous simples, aide-nous à faire des progrès, à être de mieux en mieux, à faire des progrès dans notre amour, dans notre façon de le manifester. Garde-nous, Seigneur Jésus, aide-nous à être bien pour ta gloire, pour le bien de chacun et de la nature que nous aimons tant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Ça va?
Merci, Seigneur. Bien vendredi, vous aurez la suite si vous êtes sage. Au revoir.